9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Votre santé et le docteur Réginald Allouche est avec nous aujourd'hui. Bonjour Doc.
Bonjour, bonjour Philippe.
Très bien, right on time, 26 secondes aujourd'hui. Je crois que là, on est bien.
Vous êtes dur. Oui, d'accord, je suis arrivé 26 secondes avant le début de l'émission.
C'est bien.
Je suis arrivé à l'heure.
Oh, voilà, ça c'est vrai. Vous êtes même arrivé avant l'heure.
Voilà, comme ça je ne vous ai pas
arrêté
avec mes questions. J'arrive juste sur le plateau.
C'est bien, comme ça j'ai ma crise cardiaque.
Voilà.
Ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Vous avez publié la méthode Hépato-détox, mincir durablement et sans danger, grâce au foie chez Albin Michel. On a beaucoup de questions ce matin. Une question qui concerne l'insuline, docteur Allouche. L'insuline ferait-elle prendre du poids? Ou alors, est-ce qu'il y aurait une prise de poids qui serait liée à des traitements à l'insuline?
Oui, alors il faut savoir que l'insuline est une hormone très importante. C'est probablement une des hormones les plus importantes de votre organisme parce qu'elle a une fonction, elle a deux fonctions. La première, elle fait entrer le sucre dans les cellules. Vous savez, quand vous avalez du sucre, ça va dans l'estomac et à ce moment-là, il va y avoir, et ça passe aussi dans la première anse du grêle, de l'intestin grêle, ensuite ça suit son, le bol alimentaire suit son cours et le sucre va être capté par les cellules. Et donc il va aller dans le sang et dans le sang vous allez avoir du sucre. Le problème c'est que le sucre dans le sang, s'il n'y a pas d'hormone pour le faire rentrer dans toutes les cellules du corps, il ne se passe rien. Et vous avez du sucre qui s'accumule dans le sang, ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Donc l'insuline, c'est une hormone qui a deux missions. La première, donc, qui est la plus connue, c'est qu'elle ouvre la clé de la porte des cellules. Voilà. Et donc, à ce moment-là, le sucre rentre dans le sang, la glycémie diminue dans les artères, et donc elle redevient normoglycémique. Mais elle a une deuxième fonction, l'insuline, qui est moins connue. C'est qu'elle elle augmente, enfin en tout cas elle provoque la lipogénèse. Alors c'est ce que ça veut dire la lipogénèse, c'est-à-dire qu'elle va stocker le sucre non utilisé, ce sucre que vous avez ingéré non utilisé, elle va le stocker dans les adipocytes, c'est-à-dire les cellules qui sont spécialisées dans le stockage des graisses. Voilà. Et c'est comme ça que lorsqu'on
c'est sa deuxième fonction en fait.
C'est sa deuxième fonction, mais on l'oublie. C'est-à-dire qu'en fait...
Là on est en train de parler du sucre qui n'est pas brûlé et utilisé.
Voilà.
Par l'organisme, en fait.
Voilà, exactement. Quand vous avez mangé un peu trop de sucre, il y en a une partie qui n'est pas utilisée, qui est donc stockée via l'insuline. Donc, vous comprenez très rapidement que plus vous avez d'insuline, plus vous allez stocker. Et plus vous mangez du sucre, plus vous sécrétez de l'insuline. Ça, c'est pour les personnes normales. Parce que quand on est diabétique, c'est un autre problème qu'on expliquera. Donc, après, votre question, c'est...
Est-ce que ceux qui sont traités
à l'insuline,
donc type 1 et type 2, prennent du poids et quel est le lien finalement?
Oui, le risque du traitement à l'insuline, c'est pour ça que le traitement à l'insuline doit toujours être adapté à son patient, soit par le médecin au départ et puis ensuite par le patient au fil du temps, parce que c'est lui qui connaît, il sait quel est le ratio entre sa glycémie, son insuline. Et bien à ce moment-là, s'il y a trop d'insuline injectée, effectivement, on va grossir et on va à l'encontre de ce qu'on veut obtenir, puisqu'on sait très bien que particulièrement chez les diabétiques de type 2, hein, parce qu'il y a deux types de diabète, vous voulez que je le rappelle peut-être, diabète de type 1, c'est une maladie qui se déclenche avant 25 ans, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est un enfant qui va faire une infection, qui va faire des anticorps contre son propre pancréas. Et puis d'ailleurs, il y a un point intéressant, parce que c'est très polémique actuellement, vous savez qu'en Australie, on s'est aperçu qu'il y a certains virus, comme les rotavirus, qui donnent des diarrhées chez les enfants, les bébés, les nourrissons. Ont la même signature antigénique, c'est-à-dire immunologique, que les cellules du pancréas qui font l'insuline. Et donc, quand le bébé va faire ces infections et ces diarrhées à répétition, eh bien, il peut, si génétiquement il est programmé pour cela, il peut faire un diabète de type 1. Donc, c'est un diabète de l'enfance et de l'adolescence. Et là, qu'est-ce qui se passe? On détruit son pancréas, il n'y a plus d'insuline et il faut se piquer. Voilà. D'ailleurs, pour les vaccins, puisqu'on parle souvent des vaccins, les Australiens ont décidé de vacciner tous les enfants contre ce rotavirus. Et d'ailleurs, c'est une proposition qui va probablement être faite en France. Et ils ont diminué entre 17 et 18% le nombre de cas de diabète.
C'est-à-dire que les Australiens ont tendance à vacciner rapidement.
Voilà. Bon. Alors après, on peut rentrer dans les débats
sur plein de pathologies. Bon,
voilà, exactement.
Ce sont les Australiens. Pour revenir sur notre.
Et donc, le diabète de type 2.
Oui.
Le diabète type 2, c'est un diabète qui est plus à l'âge mûr. C'est en gros, il y a aussi une prédisposition génétique. Il y a toujours quelque part une prédisposition génétique, ce qui fait la grande inégalité entre les hommes et les femmes, parce qu'il y a des gens qui mangent n'importe quoi et qui n'ont jamais rien. Donc, enfin, vous connaissez ce. Et ce diabète, c'est pas assez d'exercice et une alimentation inadaptée. Voilà. Et ça, c'est un diabète qui est caractérisé par une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g par litre, deux fois d'intervalle.
Alors, on ne met pas tous les diabétiques de type 2 à l'insuline.
Ah non, non. L'insuline, c'est un traitement. Alors, si vous voulez, il y a une aujourd'hui, il y a une vraie coupure dans le traitement du diabète de type 2. Jusqu'à présent, il y avait ce qu'on pouvait appeler une certaine inertie thérapeutique. C'est-à-dire, vous avez un diabète de type 2, vous allez voir votre médecin, vous avez plus de 26 à 15 jours d'intervalle, 26 grammes par litre, pour la glycémie à jeun. Et à ce moment-là, il vous met avec un traitement, la metformine en général. On commence toujours par la metformine. Pourquoi ? Parce que c'est un traitement excellent, sans danger. Il y a parfois des petites intolérances gastro-intestinales, mais ça dure 2-3 jours, puis après ça passe. Et après, on se dit, au bout de 4-5 ans, la glycémie, on n'arrive plus à la contrôler. On donne un deuxième médicament. Et ainsi de suite. Et à la limite, à
on
la
va
fin,
graduellement, en fait.
Et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on met l'insuline, d'après vous, Philippe ?
À la fin ?
Pourquoi est-ce qu'on met l'insuline à un moment ? Et d'ailleurs, c'est vécu par les diabétiques de type 2.
Parce que le diabète est déréglé.
Parce qu'en fait, à un moment, à force, avec le temps, votre pancréas qui au début, vous voyez la différence, diabète type 1, il n'y a plus de pancréas.
Donc il ne fonctionne plus. Il ne
fonctionne plus, on fait des injections. On n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas d'insuline. L'autre diabète, c'est qu'à force d'avoir ce diabète, eh bien, le pancréas s'épuise. À force de faire de l'insuline, à un moment, eh bien, il sécrète de moins en moins. Il y a même un autre facteur, c'est que souvent on a un foie gras. Mais quand on a un foie gras, on a un pancréas gras.
Ah, on n'en parle jamais de ça.
On n'en parle jamais. Non, ouais. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas aller voir. On le fait quand on fait des coupes.
Donc, quand on a un diabète de type 2, finalement, on finit toujours...
Par épuiser. Si on ne se traite pas. Si on n'a pas de traitement. Et eh bien, à ce moment-là, le dernier recours, si on ne se traite pas et que si on se traite, c'est un échec, à ce moment-là, c'est le dernier recours. Mais ce dernier recours n'est pas la fin du monde. Parce que souvent, il y a des patients qui disent « Je suis à l'insuline, je suis foutu, quoi. » Voilà, c'est fini. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'aujourd'hui, il y a de bonnes nouvelles. C'est que, donc, pas face à cette inertie thérapeutique, il y a aujourd'hui, on est plus sur le mode, on va attaquer le diabète, on va lui taper dedans, et il va pas passer par moi. Donc, on va essayer, dès le début, de donner des traitements très, très adaptés, à de bonnes doses, pour qu'il régresse. Pourquoi ? Parce que vous comprenez bien qu'entre 5 ou 10 ans, où il continue à vous ronger, vous avez un traitement, vous avez une glycémie qui est pas mal, ou une hémoglobine glycée qui est pas mal, et puis, mais il continue à vous ronger. Et qu'est-ce qui ronge ? Vous savez pourquoi on a dit que c'était 1,26 g par litre, le diabète, l'OMS ?
Non.
Pourquoi, d'après vous ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui... Donc, c'est une donnée épidémiologique, l'OMS dit...
Pourquoi 1,26 ?
Pourquoi 1,26 ?
Oui, et pas 1,15 ou 1,30 ? Voilà.
Tout simplement parce que, globalement, quand on a fait les chiffres épidémiologiques, on s'est aperçu qu'à partir du 26 commence la micro-angiopathie. C'est quoi la micro-angiopathie ? C'est le moment où le sucre lui-même commence à attaquer les petits vaisseaux, les tout petits vaisseaux. Et vous savez où il y a de tout petits vaisseaux ? Il y en a dans les yeux, dans les reins, dans les extrémités, les doigts, et ce qui entoure les nerfs. Voilà. Donc au-dessus de 1,26... vous avez la micro-angiopathie. Mais il ne faut pas se leurrer, et je suis désolé, ce n'est pas une très bonne nouvelle, mais avoir 1,05 g ou 1,10 g, c'est le début de l'histoire. Et on sait qu'au bout de 5 ans, 7 ans, eh bien, le diabète pourra se déclencher. Donc il faut tout faire, ça c'est un message qu'on fait ici depuis, et vous m'avez donné la chance de le dire ici, il faut tout faire pour éviter que le diabète ne s'installe. Tout. Voilà. 1,10 g, c'est pas faites attention au sucre. Non, 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 non. 1,10 g, c'est une indication.
Mais alors pourquoi donc cette insuline qu'on prendrait en traitement donc ferait grossir, ferait-elle grossir ?
Eh ben parce qu'elle augmente quoi ? Elle augmente la lipogénèse, c'est-à-dire qu'en fait elle est c'est la stockeuse. L'insuline, c'est la stockeuse. Donc vous avez de l'insuline et vous allez stocker. Mais encore une fois, vous pouvez très bien aujourd'hui, on a de plus en plus, voilà. Prenons le cas d'un patient qui a un diabète depuis 15 ans. Qu'on n'arrive pas à stabiliser et qu'est-ce qui va se passer ? Il va commencer à être ce qu'on appelle un diabète insulinoprive, c'est-à-dire qu'il a pratiquement plus d'insuline. Mmh. Celui-là, il faut absolument qu'il ait de l'insuline. Parce que s'il n'a pas d'insuline, il peut avoir des accidents cétosiques et ainsi de suite. Donc, en fait, on peut très bien, et c'est des protocoles qui sont maintenant assez communs chez les gens qui traitent le diabète, vous pouvez avoir une injection d'insuline lente qui va couvrir les 24 heures. Donc c'est en général l'injection qu'on fait le soir ou le matin, peu importe si elle fait 24 heures. Et c'est une injection d'insuline qui simule la réalité. C'est-à-dire qu'on a toujours une dose de fond qu'on va avoir toute la journée et toute la nuit et qui va permettre, et dessus, dans la journée, on donne les traitements classiques du diabète de type 2. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas le plaquage du traitement du diabète de type 1, on donne une injection plus 3 dans la journée. Il y a des gens qui sont en diabète type 2 qui sont comme ça, mais aujourd'hui, les nouveaux arrivants, on a plutôt tendance à leur mettre une injection d'insuline lente et puis des traitements classiques avec la metformine et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est un mix, et ce mix est heureux. Pourquoi ? Parce que quand ce sont des gens qui ont 15-20 ans de diabète, il est probable que leur pancréas est totalement exsangue et fatigué et que ça ne sert à rien de les laisser dans cette situation parce qu'après, ils peuvent avoir des problèmes d'acidocétose, problèmes rénaux et ainsi de suite.
L'insuline est une hormone sensible et, docteur Alouche, elle obéirait au rythme circadien. Donc ça veut dire que les gens qui ont des horaires décalés seraient peut-être plus sensibles au diabète ?
Alors attendez, de toute façon, nous sommes tous nos organes sont sensibles au rythme circadien. Mmh. Il y a un chef d'orchestre dans le noyau suprachiasmatique qui est dans le cerveau, très proche du nerf optique, pardon. Mmh. C'est pour ça que quand il y a de la lumière, eh bien, à ce moment-là, ce noyau, et il synchronise. C'est une horloge comme dans un ordinateur. Les informaticiens connaissent bien ça. Il y a une horloge centrale qui donne le rythme. Et ça, donc l'insuline, les sécrétions pancréatiques, le foie, il y a une publication dans Hépatologie qui est très intéressante il y a à peu près 4 mois qui montre que la nuit et le jour, c'est pas la même chose. La nuit, figurez-vous que le foie augmente sa taille. Il va se détoxifier, il va faire plein de choses entre 1h et 4h du matin. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être endormi entre 1h et 4h du matin, parce que c'est à ce moment-là où tous les systèmes de détoxification lymphatique et tous les systèmes hépatiques se mettent en œuvre pour justement, parce que le foie quand même, il fait beaucoup de choses. Il fait plus de 500.
C'est-à-dire que si on n'est pas endormi à ce moment-là, il n'y a pas un autre moment de la journée où le foie pourrait le faire ?
Non, il le fait uniquement la nuit. Voilà. Donc c'est une publication qui a 4 mois dans Hépatologie, qui est la revue de l'Organisation Européenne des Pathologies, qui est une revue extrêmement sérieuse, et c'est des travaux qui ont duré une dizaine d'années, parce qu'il faut tout mesurer, le jour, la nuit, ainsi de suite. Et donc on sait pourquoi maintenant les gens qui travaillent postés de nuit plus de 5-10 ans peuvent avoir des problèmes de stéatose hépatique ou des problèmes de diabète ou d'obésité.
D'accord. Ça veut dire que si on se met dans un environnement qui est noir à un autre moment de la journée, le foie ne fera pas le travail à ce moment-là ?
Non.
Parce que pour lui, c'est pas la nuit.
Alors, il faut savoir que les organes ont été tous très bien faits. C'est que vous avez le grand régulateur central dans le cerveau, le noyau suprachiasmatique, mais chacun a des horloges propres. Et donc, en fait, si vous avez une désynchronisation, c'est-à-dire que vous créez une nuit artificielle, vous allez désynchroniser vos organes. Et là, la combinatoire entre cette désynchronisation, c'est impossible à étudier. Donc, en fait, on est fait pour se lever le matin et se coucher la nuit. Voilà, je suis désolé.
D'accord. Voilà. Mais pour revenir au foie, au général, donc ça veut dire qu'il ne fait pas son boulot. Quelqu'un qui travaillerait toutes les nuits, le foie ne ferait pas son boulot.
Voilà. Mais, encore une fois, pour ne pas affoler nos amis qui travaillent la nuit, il faut des années. Le foie, c'est un organe qui pardonne énormément. Pourquoi ? Parce qu'il est très largement surdimensionné. Lorsqu'on fait des grèves du foie, il faut savoir qu'aujourd'hui, on grève des tiers de foie. Quand on a un donneur, on prend un tiers.
Oui. Donc, c'est suffisant pour,
c'est largement
pour qu'il se régénère.
Pour qu'il se régénère, qu'il fasse tous les jobs. Parce que nous venons d'une époque, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, où ce que nous avions à manger n'était pas de bonne qualité. L'eau était polluée. Parce qu'aujourd'hui, on parle de pollution, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que pouvait être la vie préhistorique. Hein. C'était absolument épouvantable, hein, parce que les eaux étaient largement polluées aussi par les défécations d'animaux. Enfin, il y avait des mares, parce que si on allait près des cours d'eau, il y avait des animaux féroces qui vous attendaient pour vous bouffer. Enfin, il faut qu'on soit un peu plus humble et modeste aujourd'hui. On a réussi quand même à avoir une civilisation qui, même si elle pose des problèmes à la Terre, et je dis aux gens ce qu'il faut, c'est pas sauver la Terre, c'est sauver les hommes, parce que la Terre, elle se sauvera. Hein. Si demain on disparaît de la surface de la Terre, dans 200 000 ans, c'est reparti. Hein. Ce qu'il faut, c'est avoir une vraie réflexion sur ce qu'on veut faire sur Terre et arrêter de la polluer, la Terre, le plastique. Manger des poissons pleins de plastique, c'est pas... Voilà.
Bien. Docteur Alouche, on a dit tout à l'heure qu'on allait s'intéresser ce matin au pondérostat de Kim.
Ah oui.
Ouais, Shkoun, le pondérostat de Kim. Mais je crois qu'il est peut-être déréglé, le pondérostat.
Ah, le pondérostat.
On ne sait pas. On verra tout à l'heure. Vous pouvez poser vos questions au docteur Alouche au 01 53 48 3000 avant les vacances. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Avec le docteur Alouche qui est avec nous jusqu'à 10h. Alors, une question qui revient souvent, docteur Alouche, c'est pourquoi est-ce qu'il est de plus en plus difficile de perdre du poids en vieillissant? Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est vrai déjà?
Alors, c'est une excellente question. C'est qu'en fait, il faut savoir que nous avons deux systèmes de régulation. Le premier, c'est le thermostat. Le thermostat, c'est un système qui est très important parce que c'est grâce à ce système que votre cerveau, qui est très sensible à la température, ne va pas avoir trop chaud, parce que quand il a trop chaud, eh bien, il risque de convulser ou de faire de l'épilepsie. Et lorsqu'il a trop froid, c'est l'hypothermie, eh bien, on risque la mort par hypothermie. C'est ce qui arrive malheureusement aux alpinistes quand ils ont un coup de fatigue et ils ont une hypothermie, et là, ils s'arrêtent. Voilà. Donc le thermostat, c'est quelque chose qu'on va conserver, qui va continuer. Il faut savoir que dans notre cerveau, le thermostat, c'est des petites structures, c'est tout petit parce que c'est très archaïque, ça vient de la nuit des temps. Hein. Voilà, ça marche et ça marchera assez bien. Il est vrai qu'à partir de 80-90 ans, on peut avoir des troubles de la température. Voilà. Bon, mais c'est toujours à la marge. Mais il y a un deuxième système qui s'appelle le pondérostat. Et le pondérostat, c'est un système qui gère le poids. Et là, on est très inégaux par rapport au pondérostat. Il y a des gens qui naissent génétiquement avec un pondérostat très élevé, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à manger beaucoup.
Mais c'est-à-dire quoi ? C'est quoi son rôle au pondérostat ?
Son rôle, c'est de maintenir le poids pour être en vie.
Mais comment il est déterminé ce poids ?
Il est déterminé parce que il est déterminé génétiquement. C'est génétique.
C'est-à-dire qu'en fait, chacun d'entre nous, génétiquement, on aurait un poids qui nous serait déterminé à la naissance.
Exactement.
D'accord. Ah oui, donc ce qui veut dire que ça peut être stupide d'être en dessous du poids qui nous a été...
Ce n'est pas stupide, c'est que c'est lié à l'environnement aussi, parce qu'on est un organisme dans son environnement. Il y a un siècle, le fait d'avoir de l'alimentation, c'était compliqué. Il n'y avait pas de la bouffe partout. Je veux dire la bouffe, parce qu'aujourd'hui, on en est quasiment à ce stade-là.
Il y a de la malbouffe.
Partout. Je porte pas de jugement de valeur, mais vous passez un coin de rue, vous avez de quoi manger. Donc c'est à l'époque, il fallait faire des kilomètres pour aller acheter à manger et chercher à manger. Il fallait travailler pour ça. Donc vous aviez génétiquement une génétique avec un pondérostat d'obèse, d'accord ? Eh ben vous pouviez pas être obèse parce que vous brûliez, vous aviez du mal à vous alimenter. Mmh. Aujourd'hui, c'est quoi l'obésité ? C'est pas des gens qui mangent comme ça parce qu'ils sont négligés ou parce qu'ils sont complètement... vous savez, souvent on dit, ah, il est obèse, ouais, c'est du laisser-aller. Ouais. Mais ça n'a rien à voir. Il faut arrêter d'ostraciser les gens comme ça. C'est pas ça. C'est la rencontre d'une génétique avec un pondérostat élevé et d'un foisonnement d'offres alimentaires. C'est ça le problème. Donc, traiter l'obésité de l'enfant, c'est extrêmement difficile. Ça se traite. Mais ça se traitera comment ? En disant, il a un pondérostat à ce niveau-là, il va falloir avoir un régime restrictif, parce qu'il n'y a pas d'autre façon, mais aussi leurrer le pondérostat. Leurrer le pondérostat, le fait d'avoir beaucoup d'aliments, mais des aliments qui n'ont pas une densité énergétique trop forte, et ainsi de suite. Donc le pondérostat, si vous voulez, il va vivre sa vie. Et puis, c'est vrai qu'à 20 ans, 30 ans, on fait un régime, on perd du poids, il n'y a aucun problème, c'est fait comme ça. Voilà.
Mais quand on perd du poids, on est où par rapport à notre pondérostat ?
Notre pondérostat, il va s'adapter par rapport à ça. C'est-à-dire que peut-être qu'on avait un poids un peu trop important parce qu'on est allé au-delà du pondérostat. Mmh. Si vous, par exemple, vous buvez de l'alcool, l'alcool, c'est très calorique. Donc vous êtes en deçà de votre, vous êtes au-dessus de votre pondérostat. Si vous arrêtez de boire de l'alcool, d'ailleurs souvent, il y a trois lettres que j'utilise souvent chez surtout chez les hommes de 50 ans. Vous faites le régime PVF. Vous connaissez le régime PVF?
Non, j'aime bien l'idée.
C'est pain, vin, fromage, bière. Voilà. Vous diminuez, vous arrêtez le pain, le vin, le fromage et la bière pendant un mois et vous allez voir, vous allez perdre 5 à 10% de votre poids. C'est simple. Alors tout le monde dit ah c'est facile, c'est pas si facile que ça. Parce que le fromage ça se mange avec du pain, avec un petit coup de rouge et ainsi de suite. Voilà. Donc
et puis le pain ça se mange comme ça.
Et le pain ça se mange avec le pain. Hein. Bon. Je sais que le pain c'est terrible. Le pain c'est terrible pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que le pain? Le pain vous savez ce que c'est? C'est de l'amidon donc du sucre fermenté. C'est-à-dire que c'est déjà prêt à être absorbé. Donc le pain c'est des calories. Voilà. C'est simple.
Cherchez pas à négocier.
Donc, si vous le mangez le matin, c'est bien, parce que le matin, tout ce qui est mangé le matin est brûlé, parce que vous allez avoir la. Tout ce qui est mangé le soir est stocké. Voilà. C'est simple, c'est assez bête.
Bon, alors, notre pondérostat, quand on est jeune, il fonctionne. Et après, qu'est-ce qui se passe en vieillissant? Pourquoi est-ce que, finalement, quand on essaye de se mettre au régime et de perdre du poids, c'est de plus en plus dur?
Parce qu'on a des sécrétions hormonales différentes. On a aussi le cerveau qui vieillit un petit peu. Donc, il n'a plus la même fraîcheur, on va dire, que lors de notre jeunesse. Il y a moins d'hormones de croissance aussi. Vous savez, par exemple, que l'exercice physique, c'est extraordinaire. Même après 60 ans, ça génère de l'hormone de croissance. Donc, ça permet justement de pouvoir, pas rajeunir, mais d'éviter le vieillissement.
Ouais.
Donc, en fait, il y a un vieillissement du pondérostat qui fait qu'après 50 ans, 60 ans, eh ben, votre pondérostat, il est beaucoup moins sensible. Et puis, il faut savoir que le pondérostat, il est renseigné. Il a des capteurs dans tout l'organisme. Hein, puisque, imaginez-vous, une petite structure centrale qui n'a pas beaucoup de neurones. Hein, c'est pas des milliards de neurones, c'est très, très peu de neurones. Et puis, il a des petits capteurs. Alors, il y en a un peu partout. On en a découvert dans la veine porte, oui, dans la veine porte qui amène le sang au foie. Et ces petits capteurs, avec l'âge, vous savez, c'est comme une voiture. Les capteurs de pression d'huile ou de température, ça vieillit, il faut les changer. Nous, on ne peut pas les changer. Donc, les informations qui remontent, parfois, sont erronées ou ne sont pas tout à fait vraies, pas tout à fait sensibles. Et c'est comme ça que le pondérostat stagne, c'est que nous aussi, on a du mal à perdre du poids. Et puis, vous savez, après la ménopause, chez les femmes et le début de l'andropause chez les hommes, parce qu'il y a une andropause chez les hommes, elle se voit moins, mais elle existe. Eh bien, il y a.
Alors, andropause,
ça alors, excusez-moi, andros, c'est l'homme, c'est. Et la pause, c'est-à-dire qu'en fait, on a une baisse des sécrétions sexuelles, testostérone,
des hormones, quoi.
Androgènes. Voilà, et puis chez la femme, on a quasi-disparition des oestrogènes et progestatifs, et c'est la ménopause. Mais, par exemple, pour le désir sexuel, il y a souvent suffisamment d'hormones pour continuer à avoir le désir sexuel. Parce que souvent, les gens, après la ménopause, se disent, bon, ça y est, quoi, la boutique est fermée. Elle n'est pas fermée du tout. Et donc, il faut travailler, il faut préparer sa ménopause. Il ne faut pas la vivre comme un... Alors, dans la ménopause, il y a aussi autre chose, c'est que les hormones sexuelles, vous savez, sont très liées à l'activité musculaire et font du muscle. Quand on a moins d'hormones sexuelles, eh bien, on fait moins de muscle. Donc, ce qu'il faut, c'est préparer sa ménopause, préparer son andropause chez l'homme. C'est-à-dire faire d'exercice, faire attention à ce qu'on mange et ainsi de suite.
Alors j'ai trouvé un autre terme, c'est l'adipostat.
Ah, l'adipostat, oui. Oui, alors
est-ce que c'est un autre thermostat qui gérerait nos tissus adipeux?
En fait, le tissu adipeux, il faut comprendre, nous sommes les enfants des survivants préhistoriques. C'est-à-dire que ceux qui ne pouvaient pas stocker, eh ben, ils n'ont pas eu de descendance. Donc, au fond, ceux qui sont bénis, c'est ceux qui sont capables de prendre du poids. C'est paradoxal parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt considéré comme un handicap. Mais en fait, à l'époque, les gens qui étaient capables pour une calorie de la stocker, eh bien, ils avaient des descendants. Aujourd'hui, on est face à une telle offre alimentaire qu'à ce moment-là, c'est devenu un handicap. Mais donc, l'adipostat, ça existe parce que il faut toujours maintenir les réserves adipeuses. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cellules adipeuses? Eh bien, il y a des graisses, des acides gras, en fait, qui ont été, qui sont issus. C'est le foie qui transforme le sucre en acide gras, ou qui prend les graisses et qui les stocke aussi également dans le tissu adipeux. Ce sont nos réserves de vie, qui fait que s'il y a une famine, à ce moment-là, on peut vivre sur nos réserves avec un peu d'eau et quelques liquides. Vous voyez, c'est franchement très bien fait, mais on est passé d'une économie de survivants et de gens se battant pour l'alimentaire à une économie de trop. Voilà.
Vous parlez jamais du métabolisme, docteur Alouche, ou rarement. Quel est le rôle de notre métabolisme, finalement, dans la façon qu'on a de perdre du poids? Est-ce qu'en vieillissant, notre métabolisme serait peut-être moins efficace?
Alors, le métabolisme, le problème, c'est que c'est... on va le faire en radio, on va essayer de le faire comprendre. Le métabolisme total, c'est ce que vous brûlez en calories sur cette terre, par jour. Voilà. Combien vous brûlez. Il y a des méthodes de mesure, plus ou moins sophistiquées, mais qu'est-ce que c'est que le métabolisme total? En fait, c'est l'addition du métabolisme de base, ce qu'on appelle la dépense énergétique de repos, c'est-à-dire je vous mets dans un lit pendant 24 heures, combien vous dépensez de calories pour pouvoir
survivre.
Rester en vie.
Voilà. Voilà.
Et ensuite, au-dessus de cette dépense énergétique de repos, on ajoute la digestion, parce que la digestion prend toujours 10% de toutes vos calories de la journée pour digérer. Vous savez qu'il faut élever la température de l'abdomen pour pouvoir digérer. Donc la digestion demande de la température, de l'énergie et de l'oxygène. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de sport juste après un repas, parce qu'on va prendre tout l'oxygène pour le tube digestif et on va avoir très vite des crampes et voilà. Ça, c'est un autre sujet. Et au-dessus, donc, vous avez dépense énergétique de repos, pardon, la digestion, et au-dessus, l'activité physique, qui, par définition, est variable. Mais ce qu'il y a d'extrêmement intéressant, c'est que la dépense énergétique de repos, c'est quasiment 80% de toutes vos dépenses. C'est-à-dire que la dépense énergétique pour que votre corps reste en vie, c'est 80% de toutes vos dépenses. Et qu'est-ce qu'il y a dans la dépense énergétique de repos? Il y a trois secteurs physiologiques. Les os, votre ossature, les organes, donc le foie, le pancréas, la rate, le cœur, et les muscles. Et d'après vous, quel est ce qui est variable?
Les muscles.
Ben oui, vous n'allez pas changer d'organe, vous n'allez pas doubler votre volume osseux. La seule chose sur laquelle vous pouvez agir, c'est les muscles. Plus vous avez de muscles, plus votre dépense énergétique de repos sera importante, puisque 1 kg de muscles, ça brûle 30 calories par jour sans bouger par 24 heures.
Voilà. Non, ma question, c'était de savoir, c'est finalement, est-ce qu'avec le temps, notre métabolisme, finalement, il fonctionne moins bien et qu'on brûle moins de calories
et
que c'est pour ça qu'on stocke, en fait.
Parce que avec l'âge, particulièrement après 60 ans, on a ce qu'on appelle une sorte de sarcopénie, c'est-à-dire qu'on a moins de muscles. Et, on mange, et c'est pour ça qu'il faut manger des protéines, faire de l'exercice.
Contrairement à ce qu'on dit, c'est quand on est âgé qu'il faut manger des protéines.
Exactement. Ouais. Faut pas manger 3 grammes par kilo. Mais ce qu'il faut, c'est avoir un apport en protéines suffisant. Parce que souvent, avec l'âge, on a un dégoût de la viande, par exemple. Ou un dégoût
de poisson. On a moins de dents.
Les dents, on se brosse à la brosse électrique le matin et le soir. On se fait un détartrage une fois par an.
Oui, mais parce que pour manger de la viande, il faut la mâcher, docteur.
Eh ben, les dents, c'est un bien absolument précieux. Et d'ailleurs, je voudrais envoyer un petit message. Dans la plaque dentaire, vous savez, quand vous avez du tartre, à l'intérieur, il y a des germes qui sont des grammes moins, qui sont extrêmement inflammatoires. Et vous les avalez toute la journée. Et ils vont se mettre dans la flore bactérienne. Et après, on se demande pourquoi on a une inflammation de l'intestin et du côlon. Donc la santé globale, elle commence par la santé des dents. Détartrage. Et je suis désolé pour mes confrères dentistes, un détartrage, c'est pas on passe la sonde à ultrasons 3 minutes. Un détartrage, on s'occupe des gencives, on passe, ça dure au moins 20 minutes, une demi-heure. Et c'est ça le problème. C'est que faut comprendre que les dents, c'est un bien extrêmement précieux. Et si vous vous y faites pas attention, ça vous coûtera le prix d'une voiture. Les soins dentaires, c'est le prix d'une voiture neuve. D'accord? Donc, quand on doit mettre des implants, des machins, donc il faut faire de la prévention. Mais l'enseigner à vos enfants dès le plus jeune âge, il faut se brosser matin et soir les dents avec une brosse électrique et pendant 2 minutes à chaque fois. Je suis désolé d'insister en tant que médecin là-dessus, mais parce que quand on a des dents délabrées, comme vous dites, on mâche plus. Quand on mâche plus, on gobe. Comme on gobe, on commence à avoir des problèmes, ouais, des flatulences et des machins et des problèmes à l'estomac. On a des hyperacidités et ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. Tout passe par la bouche.
Beaucoup de questions pour la dernière de la saison, docteur Alu. Je vous reste avec nous. Je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent appeler en direct au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et le docteur Alouche qui est avec nous aujourd'hui. Alors, beaucoup de questions, docteur Alouche. Vous écrivez dans votre livre que quand on doit définir ses objectifs en termes de perte de poids, il faut prendre son tour de taille. Pourquoi est-ce que le tour de taille est un indicateur presque plus important que le nombre de kilos qu'on voudrait perdre ?
Parce que le tour de taille, c'est là où sont les adipocytes, c'est-à-dire les cellules qui stockent le gras, qui sont celles qui vont avoir un rôle le plus inflammatoire. Je vous explique. En fait, ces adipocytes, adipos, gras, cytos, cellules, ils sont un peu partout dans le corps, mais particulièrement autour de la ceinture abdominale, les fesses, les cuisses, les bras, le visage. Et donc, en fait, ces adipocytes, ils ont pour mission de stocker le gras et de stocker le sucre transformé en gras. Vous avez compris qu'en fait, il y a deux toxicités, la lipotoxicité, le gras, et la glucotoxicité, c'est le sucre. Voilà. Et ça, c'est stocké par le foie dans les adipocytes. Le foie, quand il a pas de place, normalement, donc il va stocker dans les adipocytes. Et ça ne vous a pas échappé que lorsqu'il n'a plus de place dans les adipocytes, parce que nous sommes codés génétiquement pour avoir notre masse grasse, à ce moment-là, il va stocker dans sa propre matrice, et c'est là où il va devenir gras. C'est comme ça que ça marche. Donc, pourquoi ? Et ça, c'est le tour de taille, c'est vraiment fondamental de le prendre. Pourquoi ? Parce que c'est là, à l'intérieur, qu'il y a des adipocytes qui sont dans le péritoine, c'est-à-dire ce qui entoure le tube digestif. Et ces adipocytes-là, ils vont, à un moment, quand ils sont trop remplis, ils envoient des signaux à l'extérieur en disant, les gars, arrêtez, je vais m'asphyxier. Ces signaux s'appellent des cytokines, ce sont des hormones qui sont inflammatoires. Il faut savoir que l'adipocyte est probablement la cellule qui fait le plus d'hormones dans notre organisme. C'est paradoxal. Pourquoi ? Parce qu'elle est très importante, cette cellule. Elle est tellement importante parce qu'elle a fait notre survie pendant des milliers d'années. Pourquoi elle est importante ? Parce que elle est tellement importante qu'elle est immortelle, quasiment. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement qui est un renouvellement technique, mais notre masse grasse, on va la remplir, la vider, mais on va la garder. Vous comprenez ? Donc, et dans le péritoine, vous avez cette masse grasse qui envoie des informations en disant « j'en ai ras-le-bol, arrête ». Et ces hormones sont inflammatoires. Elles vont aller où ? Dans le sang. Et elles vont aller où ? Elles vont aller dans le foie et rendre inflammatoire le foie, dans ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade, fait que le foie, qui est celui qui régule la glycémie, c'est lui qui fixe la glycémie. C'est pas le pancréas, il fait l'insuline, lui. Il fait son job, il fait l'insuline. C'est le foie qui régule la glycémie. Et à un moment, il va être tellement inflammatoire qu'il ne va plus réguler la glycémie. Et c'est le début du diabète. Mais il y a une deuxième voie. C'est que ces cytokines inflammatoires de l'abdomen, ils vont aussi dans le cerveau. Parce qu'il y en a qui passent la barrière hématoménagée et ils vont dire au cerveau, ça ne va pas. Et il va y avoir une inflammation un peu généralisée. Donc c'est pour ça que le tour de taille, c'est extrêmement important. Et on sait aussi que...
Mais alors, une fois qu'on a pris le tour de taille, qu'est-ce qu'on en déduit comme information ?
Ah bah, si on a, par exemple, un tour de taille supérieur pour les femmes à 88 cm, alors ça dépend bien entendu de la morphologie, de la taille, enfin, on a des abacs, on a des toits, voilà. Et pour un homme, en gros, supérieur à 98, on va faire rapide, puisque même si les Américains réduisent encore ces tailles, on sait qu'il y a des risques qui sont liés, des risques cardiovasculaires, hypertension, des risques de diabète, des risques de maladies métaboliques. Et donc, pourquoi ? Parce que ces mêmes cytokines, elles ont aussi des propriétés hypertensives. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'une partie de l'hypertension est liée au tour de taille.
Alors, question des auditeurs. Haricots, pois chiches, lentilles, légumes secs, docteur Alouche, en conserve, est-ce que c'est une bonne solution ? Puisqu'on parlait dans notre précédente émission des index glycémiques, est-ce que c'est une bonne solution si on veut consommer des légumineuses ?
Alors, les légumineuses peuvent être très 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 bien consommées si elles sont en conserve. La conserve, c'est la pertisation. On connaît ça depuis un siècle. Il y a aucun problème avec les conserves. Ça a les mêmes valeurs nutritives et les mêmes valeurs, même gustatives.
Donc oui.
Ah oui, oui, oui. Mmh. Et les légumineuses sont toujours, toujours, toujours et toujours meilleures que les féculents. Je suis désolé, je sais que y a, tout le monde veut que tout le monde mange des féculents à midi et le soir. Les légumineuses, c'est la même chose en moins pire. C'est-à-dire qu'en fait, quelle est la différence entre féculents et légumineuses? C'est que les féculents, c'est de l'amidon pur. L'amidon, qu'est-ce que c'est? Ce sont des chaînes de glucose attachées. Voilà. Mmh. Donc, féculents, riz, pâtes, pommes de terre. Légumineuses, c'est la même chose, mais avec beaucoup de fibres qui sont mmh. Donc l'amidon est intriqué dans des fibres. Donc vous comprenez bien que lorsque vous allez avaler une légumineuse, eh bien il va falloir faire du boulot pour couper le sucre. Donc un index glycémique plus bas. Les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, topinambours et petits pois et fèves.
Bien. Elisabeth nous demande pourquoi vous conseillez de manger les amandes sans peau.
Ah, ça c'est...
C'est une question de goût ou il y a une raison
Non, il n'y a pas de raison, c'est que... En fait, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'en fait, je vais parler de l'heure tout à l'heure sur les pandérostins. Mmh. En fait, prenez une amande, mangez-la, croquez-la, avalez-la. Prenez la même amande et mangez-la comme si vous rongiez vos ongles, comme ça. Mmh. C'est pas très beau. Hein,
c'est bien. Vous faites bien.
Et vous allez vous apercevoir que cette amande, je sais même pas si vous allez la finir. Donc si vous avez la peau, la peau va se déliter. C'est pas drôle. C'est juste une histoire de praticité. Et vous faites ça. Et vous allez voir l'effet leurre que ça peut avoir. Vous savez, les leurres, je le dis souvent sur, par exemple, le chocolat. L'utilisation du cacao en poudre non sucré Van Houten. Alors, je fais de la publicité pour Van Houten, mais ils existent depuis un siècle et demi. Ils n'ont pas besoin de moi pour vivre. Mmh. En fait, quand vous prenez un yaourt et que vous mettez une cuillère à café de Van Houten dedans, alors c'est très pulvérulent, c'est difficile à mélanger. Mais qu'est-ce que vous avez dans le chocolat? Dans le chocolat, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du sucre, du gras et des alcaloïdes. Les alcaloïdes, en fait, c'est un peu comme la cocaïne, c'est pas loin, en bien moins puissant, mais il y a une addiction au chocolat. Et vous savez très bien qu'on peut un soir tourner pendant 2 heures pour chercher le dernier bout de chocolat, on sait qu'il était là et qu'il était rangé là. Tout simplement parce qu'il y a une addiction. On a une addiction au chocolat.
Donc qui est réelle.
Et voilà. Et quand vous prenez le cacao en poudre Van Houten dans votre yaourt, vous avez les alcaloïdes sans le gras, sans le sucre.
Alors, on me demande l'index glycémique de la semoule du couscous.
Ah, alors la semoule de couscous, c'est un index glycémique qui est en moyenne entre 55 et 60. C'est pas un index très élevé. Le problème du couscous...
C'est-à-dire que le problème, on ne peut pas le manger al dente, hein, je dis tout de suite.
On ne peut pas le manger al dente, non. Le problème du couscous, vous savez ce que c'est? C'est que c'est délicieux. Parce que franchement, moi je suis un adepte du couscous.
Surtout le mespouf. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus.
On ne va pas revenir sur le mespouf. Parce que vous allez. Voilà.
J'ai vu qu'il y avait des auditeurs qui l'appelaient docteur mespouf.
Je sais. Excusez-moi, c'est le plat que me faisait ma grand-mère. Oui. Avec, vous savez, c'est du couscous sucré avec des dattes. Machin. Mais à l'époque, je faisais du water polo. Donc je brûlais tout ça. Voilà. Parce que le mespouf, c'est quand même extrêmement calorique. Hein, je le dis aux auditeurs. Donc, le couscous, c'est excellent. Donc, on a du mal à manger un bol chinois de couscous. Hein. C'est pas possible.
Là, je parlais de la semoule, hein. Je parlais pas des légumes, non. Je parlais.
Oui, non. Un bol chinois de la semoule.
De semoule. Hein.
Hein, parce que sinon, le couscous est noyé. Et je sais qu'il y a des tas de philosophes qui ont fait des tas de bouquins sur faut-il manger le couscous noyé ou pas noyé. Donc, je rentrerai pas dans le. Mais j'adore ça.
Une auditrice vous précise, docteur Alouche, qu'un praticien en médecine chinoise lui a conseillé de manger du gruau de riz.
Eh bien,
elle veut savoir ce que ça a comme index glycémique.
Moi, j'ai un très grand respect pour la médecine chinoise, parce que c'est une médecine d'expérience. Hein, ils ont 5000 ans d'expérience. En fait, c'est une médecine, vous savez, qui s'est développée non pas sur l'évidence-based médecine. Vous savez, quand nous, on est des adeptes de l'évidence-based médecine, c'est-à-dire qu'on fait des essais cliniques, des essais en double aveugle. Les Chinois, c'est pragmatique et le constat. On s'est aperçu que si on mélange tel coq de ceci, tel coq de cela, et 5000 ans, ils ont eu le temps de regarder. Alors, le gruau de riz, je pense que ça doit avoir un index quand même assez élevé, mais je connais très très mal le gruau de riz, je veux pas prendre position.
On vous donnera ça.
A priori, si ça lui fait du bien, c'est très bien. Faut pas, en médecine, faut pas de dogmatisme. Hein.
Ouais.
Fais attention.
Zahira demande si elle fait le ménage tous les jours, est-ce qu'elle peut perdre du poids ?
Alors, le ménage tous les jours, c'est une vraie activité physique. Bon. Parce que, donc, perdre du poids, c'est pas pareil. Pour perdre du poids, il faut mouiller la chemise. Est-ce qu'elle mouille la chemise ? Excusez-moi pour cette expression.
Elle pense, vulgaire, elle écoute mais... à la oua en faisant le ménage, peut-être qu'elle voilà. va mouiller la chemise.
Pourquoi mouiller la chemise ? Parce que mouiller la chemise, ça veut dire augmenter son débit cardiaque. Et vous savez que le foie, c'est un organe dont sa capacité de détoxification propre, parce que c'est quand même l'organe qui se détoxifie qui nous détoxifie, eh bien, est débit dépendant. C'est-à-dire que si vous accélérez, si vous augmentez, le foie, c'est 1,5 litre par minute. De filtration. Si vous mouillez la chemise, c'est-à-dire vous augmentez votre fréquence cardiaque, à ce moment-là, il va avoir 2-3 fois plus de capacité à se détoxifier. Et aussi, à un moment, au bout de 20 minutes, quand on mouille la chemise, au bout de 20 minutes, on a épuisé les stocks de glycogène, c'est-à-dire de sucre directement utilisable, et on va attaquer le sucre qui est dans les graisses, et on va mobiliser ce sucre qui est stocké sous forme de gras dans les adipocytes.
On nous demande ce que vous pensez des produits allégés.
Rien. Parce que je pense que le produit allégé, si vous voulez, c'est un mythe. Pourquoi ? Parce que on dit il y a moins de sucre, mais souvent il y a plus de gras. Quand il y a moins de gras, il y a plus de sucre. L'avantage de l'allégé, c'est qu'on peut en manger, on peut penser qu'on en mange un peu plus en quantité, mais il y a un tel foisonnement, une telle offre qu'il faudrait regarder fiche par fiche. Moi, je suis pas un. Moi, vous savez, je pense que quand on veut faire attention à son poids, il y a une règle. Parce que de toute façon, on est envahi par la bouffe. On est envahi. Et aussi, on a un culte chez nous de l'alimentation et de la table. Et que pas manger, c'est suspect. Parce que les gens, ça fait des siècles, ils ont tellement manqué que quelqu'un à qui on offre à manger et qui fait non, je mange pas de ça, je mange pas de ça, est très très mal vu. Donc moi, le conseil que j'ai à vous donner, ne refusez pas. Prenez dans votre assiette, mais régulez votre assiette. Et si après, on vous dit, mais tu as pas aimé, eh bien, tu dis, oui, mais j'ai vraiment eu les yeux plus gros que le ventre, j'ai adoré, c'était très bon. Parce qu'il y a deux dimensions dans l'alimentaire. Il y a la dimension essentielle, vitale, il faut que je me nourrisse pour vivre, et la dimension sociale, familiale, parce qu'il y a des familles où on a des traditions qui font qu'on mange beaucoup. Et aujourd'hui, regardez, pour aller acheter le pain, on prend le vélo, la voiture, le machin, le truc, on bouge plus. À l'époque, il fallait faire des kilomètres, on marchait, on allait
le vélo, c'est bougé un peu, non ?
C'est bougé un peu, mais c'est pas, ils sont électriques quand même aujourd'hui.
Ah oui.
Ah bah oui. Donc.
Non, s'ils sont pas électriques, on bouge.
Hein, voilà.
C'est le gars qui plaide pour son.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est très bien le vélo. Hein. Moi, je trouve que c'est une très très bonne chose. Mais une trottinette, on bouge pas.
Bon, vous écoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net, vous regardez la vidéo.
Et c'est très bien aussi la trottinette.
Ça fait travailler les jambes en tout cas.
Ça fait travailler les jambes.
Bien. Mais alors,
faites attention quand même.
C'est un autre débat.
Faites attention. Parce que c'est pas très stable. Hein,
bon, la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube, vous pouvez la commenter et comme ça on répondra à vos questions. Merci, très bel été, docteur Allouche.
Merci à vous.
Et très belle journée santé.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.